Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Aujourd'hui, 7 avril, c'est la journée mondiale de la santé. Elle tombe en même temps que les assemblées de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Santé, économie, deux domaines particulièrement interdépendants, comme vient de le rappeler l'année que nous venons de vivre, à ceux qui l'auraient oublié. Et ce n'est pas terminé, loin de là. La vaccination donne un espoir de sortie de crise aux pays les plus développés, mais au prix de fortes inégalités avec les autres inégalités qui limitent l'ampleur et la vitesse de la reprise globale et potentiellement porteuse de séquelles. Quelle reprise, quelle réponse face à la pandémie? C'est la question du jour. Et pour en parler, trois invités sont en ligne et en direct avec nous aujourd'hui. Jezabel Coupet-Soubéran, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, maîtresse de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, conseillère scientifique à l'Institut Veblen, et vous avez publié « L'économie en BD » chez Casterman. Et aussi Sylvie Matelli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste également, directrice adjointe à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, auteur du livre « Géopolitique de l'économie » qui vient tout juste de sortir aux éditions Erol. Et enfin Mathieu Plane, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous aussi, économiste, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE. On va d'abord peut-être étudier le constat fait par le FMI dans ses prévisions annuelles. Jezabel Coupet-Soubéran, il voit une reprise pour cette année, mais une reprise inégalement partagée.
Oui, on est, si vous voulez, encore en pleine, évidemment, en pleine crise sanitaire. On n'est pas en situation de franche reprise, alors il y a peut-être sans doute une situation un peu de divergence hein, qui va apparaître entre les États-Unis et puis le reste du monde, étant donné le plan envisagé par l'administration Biden. Et ça va être aussi un sujet de préoccupation, au fond, hein, cette divergence qui risque de se creuser de part et d'autre de l'Atlantique. Il est clair aussi qu'on est dans une situation qui accroît considérablement les inégalités à l'intérieur de chaque pays. Tout le monde n'est pas touché de la même façon par la crise sanitaire et qui accroît les inégalités entre les pays. Donc se pose forcément la question de la réponse de politique économique dans cette situation. Et manifestement, la réponse apportée du côté des États-Unis est bien plus forte qu'ailleurs.
Oui. Sylvie Matelli, quels sont les critères principaux pour expliquer ces inégalités, comme le disait à l'instant Jezabel Coupet-Soubéran, égalité entre les pays, mais aussi à l'intérieur même des pays?
Oui, tout à fait. Et il y a probablement deux critères qui jouent sur les... Alors, les inégalités à l'intérieur des pays, ça a été, on l'a très clairement vu. La pandémie a touché d'abord les classes populaires, les gens qui sont en première ligne et qui sont souvent les personnes qui ont le moins de ressources. Mais et finalement, la sortie de cette pandémie dépend aussi de la politique vaccinale et des aides qui sont accordées par l'État. Et on retrouve les mêmes critères au niveau international. Au fond, les prévisions du Fonds monétaire international sont un redressement qui va être beaucoup plus lent pour les pays émergents et les pays en développement pour ces deux raisons. Une vaccination qui va moins vite que dans les pays les plus riches, et puis des plans de relance et des investissements publics qui vont être bien moindres dans les pays les moins avancés par rapport à nos économies, où les plans de relance se chiffrent en centaines de milliards de dollars ou d'euros, voire en milliers de milliards de dollars pour le plan américain. Donc ces deux éléments jouent à la fois sur les inégalités à l'intérieur des pays dans la reprise et sur les inégalités internationales.
Mathieu Plane, alors je ne sais pas si c'est très scientifique ce que je vais dire, mais est-ce qu'on peut et observer une corrélation nette entre le rythme de vaccination et la reprise selon les pays?
Oui, enfin, il y a un aspect scientifique si, dans cette interrogation. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les chutes d'activité, en tout cas sur 2020, ont été aussi très marquées par les mesures de restrictions sanitaires. Et on voit que là, notamment dans les pays où les restrictions sanitaires ont été les plus sévères, où les confinements ont été les plus forts, d'ailleurs la France en fait partie, on a eu des chutes d'activité qui ont été très fortes. Il y a aussi la spécialisation sectorielle. Forcément, quand vous avez énormément d'activités liées au tourisme, à forte interaction sociale, qui sont liées au spectacle, à l'événementiel, ça va vous impacter, y compris sur l'aérien, par exemple, pour le cas de la France. Et donc, assez symétriquement, plus vous allez lever rapidement ces barrières sanitaires, hein, et donc la campagne de vaccination permet de le faire, plus vous pouvez vous attendre à avoir un rebond rapide. Donc il y a deux enjeux très forts, hein. C'est les pays qui auront mieux conservé leurs économies, éviter des faillites, éviter beaucoup de destruction d'emplois, repartiront le plus vite, et c'est celles qui vaccineront aussi le plus vite, et celles qui seront aussi accompagnées des meilleurs plans de relance. Donc il y a aussi une course à cette reprise, mais la vaccination, bien sûr, est un déterminant fondamental dans la reprise.
Jésabelle Coupet-Soubéran, est-ce que l'accès au télétravail est aussi un facteur d'inégalité face à la reprise? Pour le dire clairement, est-ce que les économies de services sont moins touchées que celles qui sont peut-être plus industrielles?
Non, les économies de services sont touchées, bien entendu, par la crise sanitaire. Et d'ailleurs, quand on regarde les évolutions globales au niveau commercial, ce sont bien les échanges de services qui sont les plus touchés. Bien sûr que le télétravail a aussi des effets inégalitaires, tout simplement, hein, entre ceux qui sont bien équipés et ceux qui ne le sont pas, ceux qui ont une bonne connexion et ceux qui ne l'ont pas. Ça permet d'ailleurs de réaliser, me semble-t-il, le sous-investissement public dans le numérique au cours de ces dernières années. On voit bien le retard d'investissement public, et cette crise sanitaire devrait être justement l'occasion de rattraper ces retards d'investissement public. Le problème, c'est que dans les plans qui sont mis en place pour soutenir les économies face à la crise sanitaire, mais aussi, au fond, pour refonder nos économies et les mettre en capacité d'affronter de prochaines crises, il me semble qu'on ne voit pas, alors hormis peut-être, revient dans le plan américain, on ne voit pas une réponse très très forte en termes d'investissement public pour faire face à cette crise. Si l'on regarde ce que nous avons au niveau européen ou au niveau des États européens, on a certes un plan qui est quand même relativement massif au niveau européen, un plan de 750 milliards dont la moitié va subventionner les plans nationaux. Mais ces plans-là sont simplement des plans de soutien qui permettent de compenser pour le moment des pertes, mais qui ne permettent pas encore vraiment d'augmenter de manière très significative l'investissement public et donc de refonder nos économies pour l'avenir. Et ça, me semble-t-il, c'est un problème. Il faut trouver des solutions par rapport à ça. Il faut trouver des leviers pour parvenir à augmenter l'investissement public, on le disait dans le numérique, mais bien sûr aussi dans la santé, dans l'éducation et dans la transition écologique, et le faire sans trop augmenter la dette publique, en particulier dans les pays de la zone euro, où le risque souverain n'est pas partagé entre les États de la zone euro. C'est vraiment un problème, si vous voulez. On voit bien la différence de gestion entre des pays qui ont finalement leur souveraineté, qui ont pleinement leur souveraineté monétaire, en tout cas qui sont des pays qui peuvent emprunter sur les marchés, qui ont une monnaie, une dette, et les États de la zone euro qui sont à 19 et qui empruntent chacun dans la même monnaie. Ça pose quand même un sacré problème. Là, l'Europe est face à ses difficultés, face à ses insuffisances institutionnelles, face à son manque d'outils. Il faut trouver des réponses à ça. Il y a des propositions, elles ne sont pas toujours bien accueillies, notamment la proposition d'annulation des dettes à l'actif de la Banque Centrale Européenne, plus exactement à l'actif de l'ensemble constitué par la Banque Centrale Européenne et les banques centrales nationales. Donc si on annulait ces dettes conditionnellement à l'investissement public, on aurait là un levier très fort, oui, pour augmenter l'investissement public sans que ça pèse sur l'endettement. Cette proposition n'est pas bien accueillie, et c'est bien dommage, parce que c'est ce dont on aurait besoin dans le cadre de la zone euro.
Sylvie Matelli, ça veut dire que l'Europe, elle doit aller plus loin, à la fois dans la quantité, massifier son plan de relance, mais également plus loin dans la solidarité, encore par rapport à ce qui a été fait, par rapport au premier plan de relance.
Oui, et ce que vient de dire Jezabel Coupé-Souberan est fondamental, parce que souvent dans les médias, on a vu le plan européen de 750 milliards comparé au plan de relance américain de 1900 milliards, et en réalité, c'est pas la bonne comparaison, parce que les Européens s'en sortent pas si mal. Si vous enlevez du plan américain tout un ensemble de dépenses qui est déjà prise en charge en Europe, parce que le modèle social et les stabilisateurs automatiques, si vous rajoutez au plan européens, les plans de relance nationaux, en fait, on n'est pas si loin. La différence, c'est que pour l'instant, les Européens ne se projettent pas et que le plan d'investissement, le New Deal de Joe Biden, le plan d'investissement dans les infrastructures qu'il a annoncé, alors qu'il ne passera peut-être pas le Congrès, mais en tout cas, il l'a annoncé et il va se battre pour le faire passer, ce plan est vraiment investi dans l'avenir, investi dans les infrastructures, investi. Et il y a une nouvelle façon de percevoir, de comprendre l'économie, de mener l'économie qui démarre vraiment en trombe avec cette nouvelle administration américaine, et nous, on est largement en retard. Et on l'a vu, hein, on l'a vu au-delà des faiblesses des institutions européennes, vous avez aussi des États qui ne sont pas tous d'accord sur la marche à suivre, qui sont encore dans une course et une compétition entre eux, alors qu'il faudrait probablement allier nos forces et s'associer pour investir beaucoup plus massivement.
Oui, Mathieu Plane, l'investissement dans les infrastructures telles que Joe Biden prévoit de le faire, hein, ça doit encore passer la barrière du Congrès américain. C'est quelque chose, une chose sur laquelle l'Europe doit insister. C'est déjà quand même, il y a quand même pas mal de politique industrielle européenne. Est-ce qu'on doit aller plus loin ?
Bah oui, c'est un moment, on va dire que c'est un tournant pour l'Europe. Ça peut être aussi une occasion de montrer qu'elle est capable de justement de se projeter dans l'avenir avec bon déjà un début. Hein, on l'a dit, ce plan d'investissement, mais qui est certainement insuffisant, qui est censé quand même être complémentaire aux investissements nationaux, hein, qui sont des investissements publics. C'est vrai que les comparaisons sont toujours délicates, parce que les États-Unis ont un niveau d'investissement public historique et d'infrastructure qui est beaucoup plus bas, mais profitent pleinement de ces taux extrêmement faibles pour investir massivement sur les 10 prochaines années. Il y a des occasions, certainement, de le faire. On voit que la France le fait en partie avec le plan France Relance, mais qui peut sembler insuffisant. La question après, c'est de donner une bonne orientation à ces investissements publics. C'est-à-dire qu'on voit la question de la transition énergétique est importante, on voit sur les questions de numérique, on voit sur les questions de relocalisation industrielle. Il y a énormément de projets et on va dire de défis, hein, sur la décennie à venir, donc il y a certainement des choses à faire. Après, il faut voir comment les faire, c'est-à-dire que les montants sont importants, il faut que ça se diffuse sur l'économie de façon assez stratégique. Il faut aussi les capacités, hein, pour répondre à ces types d'investissements et à les construire. Mais certainement, aujourd'hui, il y a aussi une compétition internationale à rebondir le plus vite possible, et notamment l'investissement, c'est aussi la croissance de demain. Donc il y a aussi des enjeux pour la décennie à venir.
Jezabel Coupé-Souberan, est-ce que le plan américain, bon, le plan américain va évidemment relancer la croissance et l'activité aux États-Unis. Est-ce que ça va aussi avoir un effet entraînant pour les partenaires des États-Unis, alors les partenaires directs que sont le Canada, le Mexique, la Chine et l'Europe peut-être un peu aussi. Voilà, est-ce que c'est un plan qui profite à tout le monde?
Alors ça va. Si c'est décidé, hein, en effet, comme le disait Mathieu, si c'est validé, ça va très largement soutenir la demande américaine. Donc il va y avoir des retombées plutôt positives au niveau international, mais il va y avoir aussi des écarts finalement qui vont se creuser. C'est-à-dire que la reprise forte de l'activité aux États-Unis va vraisemblablement s'accompagner d'une reprise de l'inflation là-bas. Ça va avoir des incidences sur les taux de change, notamment sur le taux de change euro-dollar. Alors, c'est toujours assez compliqué, au fond, de savoir comment est-ce que le taux de change évolue dans ces situations-là. Mais a priori, quand même, on devrait assister, en fait, à une dépréciation de l'euro aussi. L'écart de taux se creuse entre les États-Unis et l'euro, puisque, vous voyez, si la croissance repart aux États-Unis, si l'inflation reprend, les taux vont remonter aux États-Unis. Et donc, il va y avoir un écart de taux entre les États-Unis et la zone euro. Ça va avoir une incidence sur le taux de change de l'euro. Ça va sans doute contribuer un peu à de l'inflation importée. Ça pourrait entraîner des pressions sur les taux européens, mais ça va être quand même compliqué en fait pour la Banque centrale européenne, eh bien dans cette situation là de suivre le mouvement, c'est-à-dire que les fondamentaux dans la zone euro seront très différents, ce qui veut dire que la Banque centrale européenne va pas se trouver dans une situation très très confortable si elle voit d'un côté remonter les anticipations d'inflation, mais si elle peut pas remonter ses taux, si elle peut pas ralentir ses rachats d'actifs, ça va être assez compliqué. Il me semble que au niveau des pays de la zone euro, eh bien ça risque de rendre en fait l'emprunt sur les marchés un peu plus difficile, la dette va être plus compliquée à rouler et la capacité d'investissement des pays de la zone euro risque de se trouver à nouveau bridée. Et c'est la raison pour laquelle on devrait dès maintenant se préoccuper de cette capacité d'investissement, faire en sorte que les États de la zone euro puissent investir sans avoir à augmenter leur dette, et c'est ce que permettrait l'annulation conditionnelle de la dette publique à l'actif de l'eurosystème. Il me semble que la configuration actuelle en fait renforce encore un peu plus le bien fondé de cette proposition, parce que ça va être très compliqué dans cette configuration là pour les pays de la zone euro de rouler leur dette sans difficulté, et surtout de continuer à emprunter pour investir. Ça va se faire à des conditions vraisemblablement moins favorables qu'aujourd'hui.
Oui. Sylvie Matelli, on a parlé des États-Unis, on a parlé de la zone euro avec ses inquiétudes hein, sur un plan peut-être pas tout à fait assez massif, et sur les divisions qui traversent les institutions européennes. Quels sont les pays qui sont le plus en difficulté dans les prévisions telles que le FMI les a publiées cette semaine? Vous parliez tout à l'heure des pays émergents.
Oui, les pays émergents et les pays en développement vont clairement être les pays qui vont le plus durablement être affectés en fait par les conséquences de cette pandémie, et pour les deux raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire un accès à la vaccination qui va être beaucoup plus tardif, le FMI estime, et je crois que l'OMS est même plus pessimiste sur le sujet, le FMI estime que une partie importante de la population n'aura pas été vaccinée avant la fin de l'année 2022, donc il faudra attendre la fin de l'année 2022 pour que véritablement la vaccination soit réellement menée et touche l'essentiel de la population dans ces pays. Donc ça va être un premier frein à la relance. Et puis encore une fois, l'accès au financement et au financement public et privé de ces pays qui est beaucoup plus faible, et qui fait que de ce fait les relances qui seront menées par les États seront bien plus limitées parce que moins de moyens. Ce qui est intéressant aussi dans les prévisions du Fonds monétaire international, c'est la remarque qu'ils font, et qui restera bien évidemment à vérifier dans les faits, la prévision qu'ils font sur la relance aux États-Unis comparée à la relance chinoise. Aujourd'hui, on a vu une Chine qui s'en est relativement bien sortie dans cette crise. Ça a été le seul grand pays à avoir une croissance positive en 2020. Et en fait, si ils comparent, et ça c'est intéressant, ils comparent les prévisions de croissance post-pandémie à ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu cette pandémie. Et au fond, le pays qui s'en sort le mieux, c'est les États-Unis, qui dès 2022 vont retrouver un niveau de PIB qui sera tout à fait comparable à ce qu'il aurait été s'il n'y avait pas eu de pandémie, là où la Chine, par contre, aura encore un recul d'un ou deux points en 2022 et devra attendre 2023 et 2024 pour retrouver une tendance similaire à ce qui se serait passé sans pandémie. Donc ça, c'est très intéressant pour information. Donc pour compléter, les pays émergents et les pays en développement seront sur des reculs en 2022 qui seront encore de 5 points inférieurs à ce qu'aurait été leur situation économique s'il n'y avait pas eu de pandémie. Donc on voit hein, les grosses différences qui existent entre les pays dans le monde.
Oui, Mathieu Plane, c'est difficile de généraliser, hein, c'est comme l'Europe, il y a évidemment plein de cas différents, mais les pays africains, ils s'en sortent comment dans ces prévisions du FMI? C'est ce que disait à l'instant Sylvie Matelli, une baisse qui va durer.
Alors Oui, alors oui, bien sûr. Enfin, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, et c'est ce qui a été souligné à l'instant, c'est pas tellement de regarder les taux de croissance, en réalité. C'est-à-dire quand vous avez eu des chutes qui sont très brutales, hein, on le voit, hein, qui sont dans la plupart des pays négatifs, voire très négatifs, voire des rebonds de croissance impressionnants. Mais en réalité, ce qu'il faut regarder, c'est quel est votre niveau d'activité en 2021 ou en 2022 par rapport à ce qui était prévu, hein, c'est-à-dire par rapport à ce qui était prévu avant une situation pré-Covid. Et c'est vrai que finalement, les deux grandes puissances qui s'en sortent le mieux, c'est les États-Unis, c'est clair. Les États-Unis, quand on voit l'accumulation de plans, hein, ça a commencé déjà sous Trump, hein, où il y a eu un plan quand même assez important, puis l'arrivée de Biden, où il y a des compléments importants, et on voit ça avoir des effets très rapides et très forts sur, sur l'activité. On voit quand même que la Chine s'en sort malgré tout pas si mal que ça, hein, quand on regarde les écarts de croissance. En revanche, l'Europe est clairement à la traîne, et puis on a un certain nombre de pays émergents, dont l'Afrique fait partie. L'Afrique qui va accuser un retard de croissance par les effets aussi du commerce mondial, par les effets aussi des plans de relance qui seront certainement, bien sûr, pas calibrés ou bien, bien moins importants que ce qu'on peut retrouver dans les pays développés. Donc on voit que, bien sûr, elle va creuser des fossés, cette crise, au niveau des pays, parce qu'il y a bien sûr des questions inégalitaires au sein des pays, mais encore plus, j'allais dire, au niveau international. On voit certains pays qui peuvent décrocher. Donc c'est un enjeu important d'avoir effectivement une reprise commune et bien sûr avec un commerce mondial qui pourrait repartir et qui permettrait aussi à des pays d'en profiter.
Jézabel Coupet-Soubéran, on l'a dit, on sait que la vaccination joue un rôle important dans la reprise, mais on sait aussi qu'elle va arriver tard, et ça a été dit par Sylvie Matelli, dans les pays les moins développés. Est-ce que le fait que ça dure longtemps, c'est-à-dire au moins jusqu'à la fin 2022, est-ce que ça va rendre le démarrage encore plus difficile? Est-ce qu'il y a un risque, un vrai risque de décrochage pour les pays les moins développés, comme le disait à l'instant Mathieu Plane?
Oui, il y a un risque de décrochage, en effet, mais je pense, si vous voulez, que c'est quelque chose qui peut avoir des répercussions aussi négatives sur les pays dits développés. Il y a vraiment là un enjeu majeur de coopération internationale qu'on ne voit pas vraiment se mettre en place. Mais si on veut venir à bout de cette crise sanitaire, il faut arriver à en venir à bout partout. Et ça implique en effet que les pays qui s'en sortent pas si mal, eh bien, se montrent solidaires vis-à-vis des pays pour lesquels c'est plus compliqué. Donc, notamment pour les pays émergents, le risque aussi, en fait, dans cette éventuelle mobilisation de certains pays pour venir aider des pays émergents, c'est que cette aide soit très asymétrique et que, par exemple, eh bien, la Chine se donne davantage les moyens parce qu'elle y trouve son intérêt d'aller aider un certain nombre de pays émergents, notamment de pays africains, et que voilà, ensuite ça a des répercussions sur le plan géopolitique importantes. Donc il me semble, si vous voulez, que il faudrait veiller aujourd'hui à une coopération internationale forte qui mobilise en fait. Qui mobilise vraiment toute la communauté internationale. On en pâtira, je crois, si on ne se montre pas suffisamment solidaire dans la gestion de cette crise sanitaire à l'échelle internationale.
Oui, Sylvie Matelli, est-ce qu'il faut que les plans de reprise prévoient une aide sanitaire, alors par solidarité évidemment, mais aussi peut-être par intérêt bien compris, sinon par égoïsme?
Oui, très clairement. Et au-delà de l'aide sanitaire ou de l'aide à la relance des pays émergents ou en développement, il y a aussi la question de la vaccination. Et je ne suis pas médecin, donc je parle avec une grande prudence, mais si je comprends bien les recommandations qui avaient été faites au début de l'année par l'OMS, tant que toute la population mondiale ou une part significative de la population mondiale n'aura pas été vaccinée, il y aura des risques de nouveaux variants qui peuvent se montrer résistants à la vaccination. Donc au fond, on est en train de massivement vacciner en Europe, aux États-Unis, et on peut le comprendre. On peut le comprendre, on a des populations qui saturent de toutes les restrictions et les contraintes qui s'imposent, mais il faudra très rapidement également penser à diffuser et à exporter les vaccins aux pays émergents et en développement. Et comme vous l'avez très bien dit, il y a un intérêt, il y a un certain égoïsme à le faire, parce que un variant qui nous rendrait résistants à la vaccination serait une véritable catastrophe dans le contexte actuel.
Mathieu Plane, la décision du G20 aujourd'hui de prolonger la suspension de la dette des pays pauvres, ça va dans le bon sens, dans le sens de la solidarité, bien sûr, mais aussi, comme on le disait, de l'intérêt bien compris. Il faut que ces pays, on puisse continuer à travailler avec eux.
Oui, ce serait assez malvenu de faire différemment. Mais oui, bien sûr, on voit qu'il y a, d'abord un besoin effectivement de solidarité. Hein. On est aussi face à une pandémie mondiale. Et donc, les enjeux sanitaires sont aussi mondiaux. Hein. On vient de le voir. Donc, il y a bien sûr des intérêts qui sont communs. Donc, ça veut dire aussi cette possibilité d'une plus grande coopération internationale. Et les pays les plus riches, hein, qui ont les moyens de le faire, effectivement, doivent pouvoir aussi aider les pays les plus en difficulté. Donc, il y a à la fois ce besoin de solidarité, mais il y a aussi un intérêt commun face à une pandémie qui est une pandémie mondiale. Hein, et on voit bien que même si on commence à voir la lumière au bout du tunnel, on a encore des risques hein, qui existent. Et effectivement, l'évolution des variants dans les pays où il peut y avoir encore beaucoup de contamination sont un problème qui n'est pas un problème juste national, mais qui est bien sûr un problème mondial.
Isabelle Coupet-Soubéran, je ne sais pas, on n'a pas abordé cette question depuis le début de l'émission. Je ne sais pas si on peut aujourd'hui évaluer les conséquences à long terme sur l'économie de la suspension des cours pour les écoliers, les étudiants et pour les économies de leur pays. Est-ce qu'on sait ce que ça va coûter dans des années et des années quand ces gens-là arriveront sur le marché du travail ?
Ah, c'est difficile à évaluer, mais je pense qu'effectivement, si vous voulez, pour la jeune génération, eh bien, cette crise sanitaire est un véritable drame. Donc, il faut arriver justement aussi à apporter une réponse de ce côté-là. Et la réponse, là encore, c'est vraiment d'investir davantage dans l'éducation, de se donner les moyens dans ces situations-là. Pour que notre jeunesse puisse suivre les cours à distance sans difficulté. Je ne sais pas si vous avez des enfants à proximité qui sont à la maison et qui doivent suivre leurs cours. Ça n'a pas été facile hein, ces derniers jours pour faire fonctionner justement ces systèmes EMT.
Ça a l'air d'aller un peu mieux, mais c'est vrai que ça a eu un peu de temps à démarrer. Hein.
Ça s'améliore un petit peu, mais on voit là, si vous voulez, encore une fois, enfin, me semble-t-il, hein, le sous-investissement à la matière. Et pour notre, quelles seront les incidences de tout cela? Espérons que d'ici quelques mois, quelques années, ce sera derrière nous. Mais je pense que pour cette jeune génération, il va y avoir quand même un contre-coup important hein, pour les jeunes diplômés, un accès plus difficile au marché du travail, et puis pour les plus jeunes, eh bien quand même quelques trous dans la raquette dans l'apprentissage. Donc, il va falloir compenser tout ça.
Sylvie Matelli, il nous reste une minute. Je vous pose un peu la même question. Alors je sais que c'est un peu une question piège, mais ça peut se calculer. On sait combien ça va coûter en investissement dans l'éducation, tout ça, pour compenser ce qui s'est passé.
Non, on ne sait pas. Et puis, il y a une décision politique derrière tout ça. C'est combien sera-t-on prêt à investir dans l'éducation dans les années qui viennent? Quelles leçons sera-t-on tiré de ce qui s'est passé et quelles dépenses serons-nous prêts à faire? C'est plus dans ce sens-là que se pose la question en réalité. Mais c'est clair que cette crise et cette pandémie ont mis en évidence toutes les lacunes de nos politiques publiques ces dernières années. Reste à savoir comment vont réagir et quels moyens vont débloquer les gouvernements dans les années qui viennent.
Merci beaucoup Sylvie Matelli, et merci également à nos autres interlocuteurs, Mathieu Plane et Isabelle Coupet-Soubéran. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Pons qui était aujourd'hui à la coordination, Vanadis Feuille à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Mathieu Douxamy. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur nos réseaux sociaux, sur nos applications mobiles ou sur notre site internet rfi.fr. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Dans quelques instants, l'info revient sur RFI. Prenez soin de vous et des autres, et bonjour chez vous.
Appel sur l'actualité, prenez la parole avec Juan Gomez.